Bonjour et merci pour votre présence à ce café littéraire. Vous savez que maintenant, depuis 10 ans, le Festival Imaginal, chaque année, choisit un ou une auteure qui est le coup de cœur du festival. Et le coup de cœur 2013 du festival, on l'a déjà assez répété dans les journaux, dans les médias, dans la presse et dans l'ensemble des documents. Vous le savez, c'est Samantha Bailly ici présente. L'idée du coup de cœur est très simple. C'est le festival qui tient à dire sur un écrivain, attention, talent, c'est une sorte de poteau indicateur. Bien évidemment, on ne va pas choisir, par exemple, en 2014, Pierre Bordage ou Ayardal. Ce serait du dernier ridicule d'en faire le coup de cœur. Ce sont, je dirais, des coups de cœur permanents. Ce sont des amis invités depuis des années. Ce sont des écrivains de grand talent, reconnus, avec un public, etc. Simplement, avant d'être ces auteurs-là, ils ont été des auteurs débutants, essayant de caser leur premier manuscrit et de toucher un public. Et le rôle que nous pouvons jouer aux Imaginales, c'est d'être des médiateurs. C'est vous permettre de rencontrer ces écrivains que généralement on a eu le bonheur de découvrir un tout petit peu avant vous, et faire partager nos coups de cœur, nos envies. Le coup de cœur du festival, c'est donc un auteur dont les professionnels et nous avons repéré le talent, dont les premiers écrits montrent qu'il y a un écrivain en construction, voire même déjà singulièrement abouti. Et c'est une façon de vous dire, c'est pas encore un best-seller, c'est pas encore des tirages monstrueux, c'est pas encore les télés nationales et les médias, mais ça y est, on commence à en parler, on l'a déjà repéré, et vous allez voir, vraiment, on vous entraîne dans un beau voyage. Donc, depuis 10 ans, on le fait. Quand on voit les auteurs qu'on a pu avoir, je crois qu'on n'a pas à rougir. Et cette année, on a donc fait le choix d'une très jeune écrivain, on ne va pas dire ça pendant 20 ans, mais encore très jeune déjà par l'âge, et y compris par l'engagement dans le métier, puisque Samantha a 24 ans, et elle a fait le saut il y a quelques mois, elle est aujourd'hui écrivain à temps plein et professionnel. Ce qui est une, comme sa personnalité, une vraie modestie personnelle, mais une vraie ambition pour son métier, pour ce qu'elle aime, et ce qu'elle a envie de vous faire partager. Alors, pour rentrer dans l'univers de Samantha Bailly, je rappelle tout d'abord qu'elle l'a obtenu pour son premier roman de fantasy, qui a ensuite été regroupé en diptyque sous le titre Oraison par les éditions Bragelonne. Il vient juste de sortir là il y a quelques semaines. On en dira un mot tout à l'heure. Ce grand roman de fantasy a été d'abord repéré par une enseignante, Véronique Barge. Je lui rends toujours hommage. Que, voilà, c'est bien quand quelqu'un tire notre attention dans une petite maison d'édition, donc que Bragelonne reprenne. Et ce cadeau qu'elle nous a fait, c'est nous dire « Attention, c'est intéressant, là vraiment je ne connaissais pas, regardez ». Donc ensuite, le jury, la sélection, le comité de sélection du prix Imaginal des lycéens l'a mis dans sa liste des 6. Et Samantha Bailly a gagné en 2011 le prix Imaginal des lycéens pour ce premier roman de fantasy, ce premier livre. Et elle l'a gagné devant des professionnels, qu'on nommera pas ici, mais qui sont de grands professionnels, qui avaient de beaux livres aussi. Donc c'est déjà un premier indice. Et le jugement de nos lycéens est souvent un jugement extrêmement sûr. Et on le regarde toujours avec beaucoup d'intérêt. On a peut-être fait la moitié du travail en proposant des livres, mais ensuite, eux font le choix, et c'est rarement des mauvais choix, je dirais même plus, c'est presque toujours d'excellents choix. Ensuite, pour faire connaître Samantha Bailly, on a donc décidé d'en faire notre coup de cœur, et on l'a donc très logiquement mis au sommaire des coups de cœur des Imaginales, la petite anthologie que j'ai eu le plaisir de réunir chez ActuSF, 10 ans de coups de cœur, et évidemment, on termine par Samantha Bailly, puisque c'est le coup de cœur de cette année. Alors, la première chose que je vais faire, c'est vous lire la petite présentation que j'en ai faite. Ça en dit plus, et après, on va passer tout de suite au texte et à Samantha, les questions à nos réponses. Plutôt les réponses à nos questions. Repérée par une enseignante, Samantha Bailly a fait partie de la sélection 2011 du prix Imaginal des lycéens qu'elle a remporté avec brio, malgré une sélection de qualité. C'est peut-être notre Benjamin, elle n'a que 24 ans et toute une carrière devant elle, qui illustre le mieux l'utilité des prix littéraires et autres coups de cœur des Imaginales. Samantha Bailly a ainsi attiré sur elle l'attention des lecteurs, de ses collègues et surtout des éditeurs, toujours à l'affût de nouveaux talents. La voici aujourd'hui en pleine lumière, ambitieuse pour ses livres et modeste pour elle-même, signée par Bragelonne, qui réédite en un beau volume Oraison, le diptyque de fantaisie primé par les lycéens lorrains, par Milady, qui va publier ce qui nous lie, c'est publié, et en jeunesse par Syros et par Rajo. Parier sur l'avenir, c'est ce que nous faisons avec Samantha Bailly, en toute sérénité. Élixir, c'est donc la nouvelle dont je vais vous lire les deux premières pages. Mon corps est pris d'une contraction incontrôlable qui remonte jusqu'à la gorge. Le stomac hiver se détourne écœuré, puis me tend un tissu. Je m'en empare en évitant soigneusement tout contact avec ses doigts, puis m'essuie la commissure des lèvres d'une main tremblante. Je vomis à nouveau. Est-ce que ça va aller ? Impossible de répondre. de formuler le moindre mot. Le dégoût me possède tout entière, s'agrippe à moi, refuse de partir. Tu crois que ça signifie qu'il peut récidiver, insiste le soma. Je me relève avec difficulté, puis appuie sur le bouton métallique qui permet l'évacuation de l'eau. Après une profonde respiration, j'arrive à articuler. Son meurtre le répugne à un point. Il a donc conscience de la gravité de son acte. Oui. As-tu ressenti des remords ? Difficile à dire, le dégoût est trop dominant. Le soma acquiesce d'un hochement de tête. Je m'approche du lavabo pour me passer de l'eau sur le visage tandis qu'il fait les 100 pas, pensif. C'est un cas complexe, reprend-il. Le fait qu'il soit hanté par son acte n'implique pas forcément des regrets et ne garantit pas une non-récidive. Ça, c'est à toi d'en juger, pas à moi. J'affronte mon reflet dans le miroir tandis que j'égoutte mes doigts. Mon teint est encore plus livide qu'à l'accoutumée et mes cheveux noirs épousent mon visage. Accentuant mes traits et ma cire, j'ai maigri, tellement maigri. Dis-moi ce que tu as ressenti exactement, poursuivit Guivert. Une envie de gerber, ça ne se voit pas ? Il fronce les sourcils. Ce n'est pas drôle, Elixir, fais un effort, c'est la stricte vérité. Bon, très bien, tu n'as rien à ajouter ? Dois-je te rappeler que la vie d'un homme est en jeu ? Les existences remises en cause, c'est mon quotidien. Et le soma ne perd jamais une occasion de me le rappeler. Je déteste quand il me fixe avec cet air sévère, tout en frottant sa joue fraîchement rasée. C'est un tic chez lui. Il s'y livre toujours quand il doit prendre la décision finale. Seulement, je ne peux rien faire de plus que ce que mes capacités me permettent. Avoir accès aux sentiments des autres et tenter de les expliquer, ou plutôt me laisser submerger. Répulsion, dis-je avec lassitude, il n'y a que ça. Le reste est trop flou. D'accord, d'accord, écoute, retourne dans ta chambre et repose-toi. La prochaine fois, promis, je te mets sur un cas moins violent. Merci. Je le salue selon le protocole en posant mon index sur sa tempe, sur ma tempe. La force de l'esprit, telle est la devise du département de la vérification. Je suis ce qu'on appelle une empathe, c'est-à-dire que je peux ressentir ce qu'un autre humain ressent. Tout se passe par le contact. Il suffit que ma peau rencontre une autre peau et je suis contaminé. Les gens sont comme des océans, tantôt calmes, tantôt déchaînés. Aucun ne se ressemble, chacun a ses nuances. J'ai toujours peur de ce que je vais trouver. Rien ne laisse présager ce qu'il y a à l'intérieur. Les apparences sont trompeuses, tellement trompeuses. Quand on a un jeune auteur, un jeune écrivain, on ne distingue pas toujours quelles sont les forces d'une œuvre, quelles sont les obsessions, quels sont les thèmes, quel est l'apport particulier, quelle est la petite musique, quelle est la voix de l'écrivain. Or, chez Samantha Bailly, premier roman donne une idée. Le deuxième confirme. La nouvelle que je reçois confirme encore. C'est-à-dire que tout de suite, un dessin se forme. Tout de suite, un univers se crée. Est-ce que je me trompe, Samantha Bailly, quand je dis que l'un des principaux sujets de vos romans, au-delà des formes de la fantaisie, du roman sentimental fantastique, parfois vous avez fait un roman de littérature générale par lettres, voilà, quelles que soient les formes de votre inspiration, c'est le lien entre les gens. C'est ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas. C'est l'incommunicabilité. Ou qu'est-ce que serait un monde où, justement, on communique en sachant ce que l'autre ressent ?
Oui, je crois que c'est le thème majeur. Et ce dessin, on n'en a pas forcément conscience au début. Et quand, parfois, je jette un œil dans ce que j'ai écrit avant, je me rends compte que c'est des thématiques comme ça qui courent depuis assez longtemps et qui évolue en fait, qu'on reformule, mais qui reste une espèce de questionnement permanent. Et cette idée, en fait, disons, ce facteur émotion, on va dire que c'est ça qui domine. C'est cette idée de comment composer avec les autres, c'est cette intériorité face à l'extérieur, quelque part. Et dans cette nouvelle qui a pour concept, en fait, une société dans laquelle les empathes sont une sorte d'outil du gouvernement. Et ils ont pour but de vérifier l'état émotionnel des gens pour ensuite choisir quel sera leur sort. Et s'ils sont jugés inaptes à vivre dans cette société, ils sont rejetés dans une sorte de jungle très hostile où en fait c'est un asile où ils sont condamnés à mort. Donc là, on a cette espèce d'obsession du gouvernement d'avoir accès à l'autre pour finalement choisir si c'est une personne qui peut être capable de rester dans la société ou non. Et ça passe dans cette nouvelle par l'émotion, qui est, oui, une thématique clé.
Ce qui nous lie dans la collection Milady Grand Roman, Samantha Bailly toujours, alors, a priori, le type de roman qui ne m'aurait pas nécessairement passionné, un roman sentimental, quand même, Harlequin, etc. Bon. Après tout, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on lit. à condition de l'aimer. Et c'est un roman sentimental, oui, on va accepter le terme, on me dira si elle l'accepte, mais pas tout à fait traditionnel. Il y a du fantastique et c'est un des éléments importants de l'intrigue. Et évidemment, on se retrouve dans les univers qu'on aime. Et puis, les sentiments qui y sont quand même un peu plus élevés, un peu plus intelligents, un peu plus subtils, un peu plus malins, tout simplement, que ce qu'on lit dans la romance à deux sous, parfois. Ce n'est pas le genre qui pose problème, mais la qualité des textes, tout simplement. Alors, plusieurs extraits, on va y revenir sur, là aussi, le rapport au temps, au dialogue et à la conscience. Et cette fois-ci, c'est le rapport d'une jeune fille, de l'héroïne du roman, avec sa grand-mère. Quand même, papy est parti depuis longtemps, il faut qu'il revienne. Il n'est plus de ce monde depuis plusieurs années. Inutile de te le rappeler, faire comme si de rien n'était. Le temps est aboli dans ton esprit, tout semble confus. L'instant que nous venons de partager n'existe plus. Il est englouti dans les limbes de ta mémoire défaillante, de ta mémoire déréglée. Les événements se rompent, n'ont plus de sens, plus de logique. Tu me reconnais, c'est déjà bien. Je sais que d'ici quelques mois, quelques années peut-être, mon visage te sera inconnu. Alice, oui, je suis fatiguée. Alors arrête de marcher, mamie. Non, il faut continuer. Pourquoi ? J'ai peur. Tu vis dans un monde de cauchemars. Un monde où les minutes s'envolent, perdues à jamais. Un monde où chaque geste du quotidien devient source d'interrogations, de doutes. J'essaie d'être ton pilier, d'être là pour te rassurer. C'est comme une musique. On connaît le couplet, le refrain. Il faut répéter encore et encore sur tous les tons possibles, avec patience, ne jamais s'énerver, avoir l'air sûr de soi. J'ai peur, tout ira bien. Tu crois ? Oui. J'ai quand même peur. Pourquoi tu as peur ? Je crois que j'oublie tout. Instant de lucidité, éclair fugace, lumière dans le noir, elle réalise que quelque chose ne va pas, que tout ne tourne pas rond. Tout ira bien, tu crois ? Oui. Tout ira bien. J'y mets le plus de conviction possible. C'est une musique, mais c'est aussi une pièce de théâtre. Les rôles changent souvent. Je suis ta petite fille, l'instant d'après ta fille, parfois une femme, parfois l'enfant que j'étais. Tu es tantôt ma mère, ma grand-mère, ma tante. Le texte varie de temps à autre, mais pas si souvent. Gardez le sourire, cette expression sereine, alors que tout en moi crie. De temps à autre, les larmes jaillissent, se tourner avec pudeur, chercher quelque chose à faire, t'épargner ce spectacle, te regarder avec un air de profonde quiétude. Ce ne sont que des cellules pourtant, des connexions qui ne s'effectuent plus normalement dans ton cerveau. Ce que nous sommes, ce que nous avons construit, tient à si peu de choses. Cette maladie te ronge, prend d'assaut tes neurones, abolit tes souvenirs, ta vie. Je n'ose plus te demander, tu te souviens, mamie ? Car je vois alors tes traits s'affaisser, une lueur de tristesse passer dans ton regard clair. Il te reste un seul souvenir de nos moments passés ensemble, si fort sans doute qu'il parvient pour le moment à échapper à la destruction. Celui-ci, je t'en parle assez souvent, parce que je sais qu'il reste là, que c'est ce qui nous unit, les dernières bribes de notre passé commun, que tu peux encore voir défiler dans ton esprit obscurci. Tu te rappelles, mamie, le jour de ma naissance ? Joli passage pour parler de la maladie d'Alzheimer. Et finalement, là aussi, le lien qui se construit, le lien qui se devine, le lien malédiction, la capacité de lire l'autre, et puis le lien qui se défait d'une façon ou d'une autre. C'est toujours cette question du lien à l'autre et du partage, Samantha Bailly, qui est au cœur de votre écriture.
Oui, c'est ça. Avant, je voudrais juste rebondir sur la question du genre, parce que en fait, c'est un roman, pour moi, qui est un roman contemporain fantastique. Et en fait, quand je l'ai envoyé aux éditions Bragelonne, Stéphane Marsan a vraiment eu un coup de cœur et il a décidé de le publier. Donc finalement, il est arrivé en romance parce que c'était la collection qui correspondait le plus à la féminité du roman. Mais ce n'est pas du tout une romance. Je ne voudrais pas inciter sur un genre qui n'est pas vraiment celui-ci, puisque certaines personnes l'ont lu en disant « j'ai vraiment aimé, mais ce n'est pas de la romance, je cherchais une histoire d'amour ». Et en fait, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est l'histoire que l'héroïne entretient avec elle-même, l'histoire qu'elle entretient avec son don. Et évidemment, tout le relationnel va rentrer en jeu, mais ce n'est pas seulement l'amour, c'est nos relations familiales, nos relations amicales, c'est aussi les relations de travail, puisque ça occupe une grande place dans le roman, puisque le terrain de jeu, c'est un open space. Donc finalement, c'est aussi toutes ces interactions qu'on a au quotidien et le lien aussi dans le lien forcé quelque part, puisque quand on se retrouve à travailler 10, 11 heures par jour dans un bureau avec des personnes, c'est pas forcément des personnes qu'on a choisies et on doit quand même s'accoutumer.
Le lien parfois c'est un lien plus direct, J'abandonne mon verre sur le comptoir et rejoins les danseurs endiablés. Il suffit de bouger au rythme d'une musique qui est toujours la même dans ces endroits. Boum, boum, boum. Mes yeux se ferment pour arrêter de voir les milliers de filaments mouvants. Quelqu'un se colle contre moi, je lève la tête. Son profil conquérant se découpe dans les lueurs alternativement rouges, vertes et violettes. Le menton volontaire, les lèvres pleines, la mâchoire carrée. Je laisse sa main glisser sur ma hanche. « Comment tu t'appelles ? » crie-t-il pour couvrir la musique. « Vite, un nom, trouvez un nom. »« Laura, et toi ? » ?»« Cyril. » Nous dansons face à face, un lien lumineux s'approche de moi. Vertige. L'alcool monte à toute allure, je me laisse aller dans ses bras fermes et musclés. Une onde de soulagement me submerge, il sent bon. Ton t-shirt est doux, sa bouche cherche la mienne avec avidité, la trouve. Nous échangeons nos souffles sans nous arrêter. Combien de temps ? Une minute ? Une heure ? Ses dents mordent ma lèvre inférieure. « Aïe ! » Je m'éloigne. « Où tu vas ? » demande-t-il. « Il est tard, j'habite en région parisienne, je ne veux pas rater le dernier RER. » « Moi, j'habite à Paris même, t'inquiète. » Ses lèvres s'approchent de nouveau. Je les laisse venir, je les laisse me dévorer. Chaque baiser me brûle, brûle les souvenirs avec Tim. La main de Cyril s'aventure sur ma jambe. Ma robe, déjà très courte, remonte dangereusement sur mes cuisses. Il est entreprenant, droit au but. « Tu veux encore danser ? » crie-t-il à mon oreille. « Pas forcément. » Il m'entraîne à sa suite. Nous laissons derrière nous la piste de danse et tous les déçus qui ont tenté leur chance en payant des verres. Et non, pas de retour sur investissement ce soir. Je récupère ma veste et mon sac à main au vestiaire. Nous quittons la boîte de nuit, main dans la main. Dehors, je peux enfin voir le visage de Cyril à la lumière crue des lampadaires. La pénombre n'était pas mensongère, il est vraiment séduisant. Ses yeux en amande sont ourlés de cils noirs et délicats qui lui donnent un air à la fois viril et doux, par ici. Nous nous engouffrons dans la bouche de métro. Je le suis comme si c'était une évidence, comme si je savais où nous allions. Je ne connais absolument rien de cet homme et je m'en fiche. Nous arrivons sur le quai, le panneau indique 6 minutes d'attente. Que va-t-on bien pouvoir se raconter ? Il me dévisage et sourit. « Ce n'est pas vraiment mon genre de faire ça, avouai-je. » Il caresse ma joue avec une affection étrange, presque indulgente. « J'habite dans le 5e, près du Panthéon, c'est sympa. » Est-ce qu'il s'appelle vraiment Cyril ? Ou bien est-ce qu'il ment, tout comme moi ? Je n'ai jamais fait ça avant, tricher, me déguiser. Cela semble si facile, en fin de compte. C'est comme être devant l'autre, en ayant érigé un mur, une défense qui ne pourra pas tomber, parce que tout est faux et que rien ne peut plus s'aventurer là où ça fait mal, là où ça se brise. « Je te suis, » dis-je. Un long silence embarrassant s'étire. Pour l'interrompre, sa langue s'aventure de nouveau dans ma bouche. Le métro arrive, faisant volter les pans de ma petite robe rose saumon. Dans la rame, les gens nous regardent avec une certaine tendresse, comme si nous étions un couple de jeunes amoureux, leur rappelant la beauté de faire la route à deux. Pourtant, il y a une heure, nous ne nous connaissions absolument pas. Son appartement est très grand, une vraie garçonnière, avec des affaires éparpillées un peu partout, des chaussettes, des consoles de jeux vidéo, des étagères où s'alignent des figurines, kitsch de manga des années 80. « C'est joli, dis-je pour meubler. » Il ôte ma veste avec galanterie et la suspend en porte-manteau. « Ma coloc n'est pas là, on a la porte pour nous deux. » Je me laisse de nouveau aller dans ses bras, nous basculons sur le canapé. En quelques minutes, nous sommes nus l'un contre l'autre. Il se relève un peu et contemple mon corps avec un sourire plein de promesses. « Tu es magnifique. » J'ai toujours un peu le vertige, l'alcool ou l'émotion, je ne sais pas, mais je suis brillante, rayonnante. Il descend vers mes cuisses, entre mes cuisses, je bascule ma tête en arrière. La nuit est une déferlante de sensations, une fièvre qui ne s'épuise que lorsque l'eau pointe. Lorsque je me réveille, nous sommes dans son lit. Un poster de l'Empire contre-attaque me fait face au-dessus d'un ordinateur en veille.
Alors, j'ai pris le passage le plus chaud.
Voilà, c'est bien ce que tout le monde avait compris. Alors, scène de rencontre dans une boîte de nuit, vous avez remarqué évidemment, pour une lectrice de ma génération, ces jeunes filles quand même sont rapides, entreprenantes et décidées. Les temps ont changé. Est-ce que c'est si désagréable finalement ? Je concéderais que non. Plus sérieusement, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est qu'à la fois il est vrai, naturel, bah oui, une fille, pour des raisons X, Y, Z, elle a envie du garçon, pourquoi ferait-elle semblant, pourquoi ferait-elle des chichis ? C'est lui, c'est ce soir-là, c'est comme ça, elle le fait, même si ce n'est pas dans ses habitudes, et les choses sont agréables et naturelles. Peut-être que parfois, c'est risqué de rencontrer un garçon qu'on ne connaît pas, mais bon.
C'est ça, quand on lit le passant, je dis « Ouh, n'y va pas, Alice, n'est pas forcément...
» Ouais, voilà, on se demande après. Et finalement, ce qui est rassurant, il y a une affiche de Star Wars contre-attaque. Finalement, ça ne peut pas être un garçon tout à fait mauvais. J'ai trouvé la chute de la scène quand elle se réveille, là, Star Wars. Je trouve ça quand même très drôle, c'est volontaire, bien sûr.
Oui, c'est tout le côté prosaïque, je pense, de ce type. De ce type de rencontre, de moments où on imagine qu'on arrive chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et finalement c'est une espèce d'intrusion dans la vie où je pense qu'on est toujours ramené dans ces moments-là à quelque chose de très prosaïque et de très drôle. C'est pas le glamour en tant que tel, c'est toute la vie réelle dans ses nuances et aussi dans ses clins d'œil finalement. Voilà, c'est un traitement assez réaliste de la chose.
Oui, c'est traité aussi comme peut-être ne pourrait pas l'écrire peut-être un homme lecteur de 50 ans ou un écrivain de 50 ans
Ça, je ne sais pas.
J'ai trouvé en tout cas très décrit de façon très naturelle et très vivante. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce passage pareil. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et la petite chute sur Star Wars, j'ai vraiment adoré. C'est ça que j'aime bien aussi dans votre roman, là, en particulier. C'est ce passage brutal de la sexualité, à la référence culturelle de science-fiction qu'on connaît bien. Oui, on se dit finalement, c'est des gens de leur génération. Ils se rencontrent différemment, mais ils aiment les mêmes films aussi, quelque part.
C'est ça, et c'est aussi, disons, qu'on vit chacun dans des espèces de tranches, et finalement, on en découvre d'autres à certains moments, et la jeunesse, c'est aussi différentes tranches, on va dire. Et il y a vraiment, vraiment cet aspect-là parisien, voilà, de rencontres éphémères, et j'ai envie de dire, c'est le plus gentil. Et c'est toujours intéressant à explorer parce que c'est une autre façon de vivre. Et je crois que, aussi, quand on lit un roman, enfin, moi, ce que j'ai aussi envie de lire par moment, c'est des choses, parfois, pour m'évader, qui sont complètement différentes. Et parfois, ce qui me rapproche de ce que j'ai pu au moins observer sans forcément le vivre. Et d'autres fois, je cherche l'altérité. Donc, je me dis que c'est aussi peut-être ce que les autres cherchent. Voilà, quand on n'a pas forcément vécu ce genre de situation, bah de les découvrir quelque part et de se dire que ça existe. Et quand on les a vécues, d'y retrouver une familiarité qui peut être plaisante.
Le personnage principal du roman s'appelle Alice. Je crois que je suis devenue folle, complètement cinglée. La diode rouge du téléphone fixe clignote dans le noir. Appeler quelqu'un, je ne peux pas rester comme ça. Appeler John, maintenant. Mon index compose le numéro par réflexe. Pourtant, cela fait une éternité que je ne l'ai pas appelé. Bip, allez, décroche. Bip, pitié, j'ai besoin de toi. Bip, allô. Cette voix, chaude, rassurante, j'étouffe un sanglot. Allô, c'est moi. Alice ? Oui. Tu sais quelle heure il est ? Non. J'ai examen demain. Je suis désolé. Silence. Tu pleures ? Nouveau silence. John, ça me fait si plaisir de t'entendre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je crois que j'ai un problème, un gros problème. Quel genre de problème ? Il faut absolument que tu viennes. Attends, calme-toi. Il faut que tu viennes maintenant, je t'en supplie, John. Qui est-ce ? Une autre voix au loin, féminine, il n'est pas seul. Deux secondes. Il a dû poser sa main contre le téléphone, car je n'attends plus rien. Alice ? Oui, je suis là, j'ai besoin de toi, vraiment. Très bien, je serai là dans une demi-heure, ça ira ? Je t'attends. Accroche-toi, merveille. Merveille. Ce surnom affectueux me fait fondre en larmes. Petite, je détestais mon prénom. Toute mon enfance, j'ai entendu, comme dans Alice au pays des merveilles. Jonathan n'arrêtait pas de me dire que c'était pourtant très joli, que l'œuvre de Lewis Carroll était une référence. Le roman, bien sûr, pas la version édulcorée de Disney. Là aussi, toujours, ce petit sens de l'humour qui fait que ce roman, je le trouve extrêmement jeune au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, il est mature, parce qu'il est superbement bien construit, c'est une vraie histoire, il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a des dialogues, il y a du vécu. Et puis, c'est un roman aussi, vous l'avez senti en ces quelques extraits de tonalités différentes, où on est emporté avec une rapidité, une simplicité. Franchement, je craignais d'être déçu, ça m'entend, je ne le cache pas. Mais est-ce que je vais vraiment aimer un sujet comme ça ? Et voilà, j'en ai lu la moitié hier soir et ce matin, et pour préparer cette rencontre, et je suis vraiment emballé par cette simplicité du récit, cette façon. Est-ce que pour vous, c'est important, quand vous sortez de la fantaisie où on construit un monde, où là, l'irruption de l'imaginaire, du fantastique, se fait dans un cadre réaliste, contemporain ?
C'est vrai que la question du genre, c'est une question qui revient très souvent, puisque j'écris dans des genres assez différents, donc de la fantasy, roman contemporain, du thriller, avec parfois du roman contemporain, comme ici avec une pointe de fantastique, mais qui est plus une métaphore en fait qu'une vraie exploitation de l'imaginaire. Et finalement, en fait, tous ces univers, voilà, pour moi, m'habitent. Et c'est vrai que c'est des moments où j'ai besoin, parfois, quand je sors d'un très gros cycle de fantasy, où on doit construire un référentiel que le lecteur n'a pas, c'est-à-dire que voilà, on invente un monde, on crée un système politique, on invente des personnages, mais il va falloir transmettre cette information au lecteur, transmettre finalement toutes ces images qu'on a dans sa tête en démo, ce qui est toujours un processus qui est compliqué, et pour les faire rejaillir dans d'autres images dans la tête du lecteur. Donc c'est vrai que la fantasy, c'est une sorte d'effort permanent de communication, je dirais, et qui est très vaste et très dense, et parfois revenir au réel, c'est aussi une autre façon de traiter les thèmes qu'on a à cœur, ou en tout cas les idées. Et parfois, c'est pas vraiment un choix. Quand une idée est surgie, on se pose pas la question du genre, on y va. mais ce qui est sûr, c'est que j'écris alternativement en fait la fantaisie et les romans quelque part réalistes, parce que je pense que c'est toujours bienfaiteur en fait de sortir d'un cadre dans lequel on est depuis un moment et d'aller vers la différence, de faire d'autres choses, de se donner d'autres défis et aussi de raconter d'autres choses.
Ce qui nous lie, qu'est-ce qui lie Merveille ? Qu'est-ce qui lie Alice aux autres ? Parce que là, on l'a vu, j'ai cité des passages très contemporains, mais on est quand même dans un monde où l'imaginaire, le fantastique surgit. Quel est le pouvoir d'Alice, de Merveille ?
En fait, Alice a un pouvoir qui surgit en fait le jour où elle perd sa grand-mère qui a Alzheimer. En fait, elle se retrouve dans Paris, sur les marches de l'Opéra Garnier. Évidemment, elle est très triste de cette perte. Et quand elle lève les yeux, en fait, la place de l'Opéra lui apparaît scintillante de liens, puisqu'elle découvre qu'elle a un pouvoir, c'est celui de voir les liens entre les gens. Donc ça lui apparaît sous forme de fils lumineux qui jaillissent en fait du plexus solaire. Donc pour elle, le monde, c'est une sorte de cartographie de relations. Elle voit les liens se nouer, se dénouer. C'est une sorte de ballet de filaments scintillants. C'était un peu les références qu'il y avait dans certains extraits qu'on ne comprend peut-être pas forcément quand on ne connaît pas le concept. Et c'est son don et à la fois sa malédiction, puisque le jour où ça arrive, comme une personne, je pense, normale à qui ça pourrait arriver, elle panique. Donc elle appelle son meilleur ami, c'est l'extrait qui était lu tout à l'heure, Jonathan, qui est médecin. Donc elle essaye d'avoir une explication rationnelle, donc il lui fait passer une batterie de tests ophtalmologiques, etc. Personne ne sait ce qu'elle a, pourquoi elle voit ses filaments. Donc elle se garde bien de dire qu'elle pense avoir compris à quoi ça correspondait. Mais c'est l'interrogation de savoir est-ce que finalement ce don, c'est un surgissement du surnaturel, un héritage du décès finalement de sa grand-mère, quelque chose qui serait comme ça dans une lignée, ou bien est-ce qu'elle a vraiment un problème quelque part psychologique, est-ce que c'est pas une hallucination? Et c'est ça la question pendant le roman, on suit Alice dans la quête pour découvrir en fait d'où vient ce don, qui va poser évidemment tout un tas de questions sur les relations et sur elle-même.
On va bien sûr, on a remonté le temps, vous avez remarqué, on est parti de la nouvelle plus récente et puis on a abordé le roman qui vient de sortir il y a quoi, un mois et demi à peu près, et puis on aborde maintenant Oraison, même si la version, l'intégrale, la version finale relue et un petit peu corrigée, la version de référence maintenant, l'intégrale d'Oraison est sortie il y a quelques mois. Néanmoins, c'est le premier roman, c'est le coup de cœur donc des lycéens, puisque c'était leur prix imaginal 2011, et puis c'est aussi ce qui nous a donné envie de vous inviter déjà en 2009 pour présenter le livre avant d'avoir le prix, puis de vous réinviter parce que vous avez eu le prix, puis de vous réinviter parce qu'on vous a trouvé tout à fait intéressante et passionnante, et puis de vous réinviter parce que franchement on s'est dit que vous feriez un excellent coup de cœur. Voilà comment, avec Samantha Bailly, en 4 ans, on a construit aussi des liens. Vous savez bien que le Festival Imaginal aime bien suivre les auteurs. Bien sûr, on en découvre chaque année des nouveaux, on en a déjà de prévus pour l'année prochaine, mais on apprécie aussi d'être fidèle à nos coups de cœur et à nos enthousiasmes. Mais on revient à Oraison, et je vais vous lire encore un petit passage. Tout était calme, le jour n'était pas encore levé. Nouni se dirigea d'un pas rapide jusqu'à la cuisine au mur en pierre apparente. Une marmite chauffait dans la cheminée. Elle s'avança, en souleva le couvercle et huma la soupe de légumes. Après avoir pris un bol dans une étagère, elle touilla la mixture veloutée et se servit. « Vous pouvez m'en donner un peu aussi, s'il vous plaît ?» Nouni sursauta. Cela faisait plusieurs jours que le nouvel oraisonnier habitait avec les Manérians, mais elle ne s'habituait pas à sa présence. Il lui décochait sans cesse des sourires charmeurs, ce qui la mettait mal à l'aise. Néanmoins, elle lui tendit le bol qu'elle s'était servi avant de s'esquiver dans le salon. Elle ouvrit en grand les fenêtres afin de dissiper son trouble. L'horizon s'ourlait d'un liseré rose annonçant le lever du soleil. La routine dans laquelle elle se plaisait à se cantonner était mise à mal. Son départ de Manérian impliquait le fait de laisser ce jeune homme effronté derrière elle, et cette idée la réconfortait. Peut-être Gide avait-il embauché Alexian comme remplaçant à son absence future ? Son attention fut attirée par un trois-larmes, les oiseaux de proie constituant le principal réseau d'information. Le volatile se retrouva sur l'épaule de Nouni en quelques battements d'ailes. Il portait une enveloppe pourpre à la couleur de mise lors de l'annonce d'un décès. Elle détacha la lettre avec précaution, ouvrit l'enveloppe, déplia un parchemin de qualité douteuse, puis lut « Monsieur et Madame Manérian ». Cette lettre ne la concernait pas. Nouni la replia, honteuse d'avoir déchiré si sauvagement l'enveloppe, puis elle se dit qu'il s'agissait d'un décès que s'il s'agissait d'un décès, toute la famille avait besoin d'être au courant. C'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer que Miliane Manerian, votre fille, a été retrouvée assassinée dans les rues de Misin. Son corps a été identifié par Maître Joscard de la pension sibyllaine. Nos équipes de veilleurs se chargent actuellement de l'enquête. Nous vous ferons part des moindres avancées. Sur la décision de Maître Joscard, nous ferons rapatrier le corps de votre fille dès la fin de la semaine pour que vous puissiez procéder à la cérémonie d'oraison. En vous présentant mes sincères condoléances, Aurius, chef veilleur de Misin. Sur la mer calme de l'existence de Nouni, se profila soudain une vague géante dont elle voyait la crête s'abattre sur elle pour l'engloutir sous une puissance dévastatrice. Sa sœur était morte. Voilà, on est, je le révèle parce qu'on est au tout début du roman, parce que la quatrième de couverture pose cette mort comme fondatrice du roman. Elle perd cette apprentie oraisonnière, je cherchais le terme, on va voir de quoi il s'agit après. Elle apprend la mort de sa sœur et son univers se déchire. Une autre sœur apprendra elle aussi cette mort et réagira tout à fait différemment. Votre roman, ça démarre donc comme une enquête policière, un crime qui a l'air d'un crime de rôdeur au départ. On va progressivement découvrir que c'est beaucoup plus complexe. Et derrière cette enquête, puisque le roman, on pourrait dire, c'est un roman noir, un roman policier, c'est un roman de fantaisie, c'est un roman d'initiation, c'est tout ça à la fois. Et c'est cette enquête qui va finalement révéler non seulement ce qui se cache derrière cet assassinat, mais aussi tout un univers qui va s'entrouvrir puis se déchirer. On ne va pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de mystères qui seront résolus au fur et à mesure du roman. Pour un premier roman, beaucoup de maîtrise déjà et beaucoup de plaisir à le lire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous avez beaucoup de chance, parce que moi je vais attendre quelques années pour le relire. Oraison donc, pourquoi vous avez choisi une intrigue policière pour structurer la découverte de votre société de fantasy, Samantha Bailly?
En fait, la question de la fantaisie, pour moi, c'est l'accès. C'est-à-dire que quand on invente justement tout cet univers-là et qu'on essaie de lui donner une grande richesse, qu'on le construit, la clé, c'est de le partager au lecteur, mais de la façon la plus accessible possible, tout en gardant cette complexité, mais d'essayer de la dévoiler sans le perdre et en l'accrochant. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rythme, ça commence in medias res, on est vraiment directement dans l'action. On a ce meurtre qui va évidemment cristalliser énormément d'enjeux, mais qui est une façon en fait de démarrer et d'accéder à l'univers qui n'est pas trop brusque, je dirais. On arrive dedans, mais on a les informations au fur et à mesure, et on a aussi cette... Enfin, ce qui me passionne en fantasy, qui est que certes, on va s'attaquer à des systèmes, à des macrocosmes, ça va être politique, trahison, c'est des sortes d'énormes architectures qu'on va créer, mais ça passe par l'individu, ça passe par l'individualité, et moi, en tant que lectrice, j'ai besoin d'être emmenée par des personnages qui me donnent envie de les suivre, qui fait que je vais un minimum, en tout cas, entrer en empathie, et si ce n'est pas le cas, au moins je vais avoir envie de les comprendre, envie de les découvrir, et de commencer par une mort. Finalement, la mort, c'est forcément ce qui brise notre quotidien, c'est ce qui nous attend tous, et ça, c'est toujours pas évident de s'en souvenir, mais c'est ce qui va créer justement ces déchirures là et c'est dans ce sens là du coup que j'ai construit l'intrigue avec ce meurtre.
Un petit peu plus loin dans le récit, on s'arrêtera au bas de la page parce qu'on ne peut pas révéler, si on continue un peu trop, vous direz. On va retrouver Maître Joscard, celui qui envoyait la lettre. Interlude. Tout était calme et silencieux. La pension dormait paisiblement, troublée parfois par le cri d'un oiseau nocturne ou le bruit du vent dans les frondaisons. Penché sur un livre, le maître réfléchissait sans voir les mots devant lui. La jeune Hélène était victime d'une véritable malédiction. On n'avait pas idée de se retrouver mêlée à telle situation. D'après le message de la dresseuse, la jeune pensionnaire avait été trouvée en possession du jeu des quatre vents. Il éboucha un sourire victorieux. Dès demain, il serait en route vers les Murans et récupérerait le fameux artefact. On toqua à la porte du bureau, brisant le silence de la nuit. Le maître sursauta. Qui pouvait bien s'entretenir avec lui à une heure pareille? Faites-moi entrer! L'homme se figea en reconnaissant la voix et marmonna un juron. Il n'avait d'autre choix que de recevoir son visiteur et aller ouvrir. De taille moyenne, son visage était en partie caché par la cape sombre dont il était enveloppé. Il s'agissait d'un ancien pensionnaire. Il regardait autour de lui avec un vif intérêt teinté de nostalgie. « Maître Joscard, je suis venu faire mon rapport. Je t'avais dit de ne pas revenir ici, rappela-t-il avec sévérité en le faisant entrer. Enfin, c'est pas grave, car j'ai une nouvelle à t'annoncer, une mauvaise nouvelle. » Le directeur de la pension servit un verre de liqueur au jeune homme et l'invita à s'asseoir. Ce dernier le dévisageait d'un air soupçonneux. « Mais avant toute chose, j'attends ton rapport. » Une gorgée de la boisson suffit à réchauffer le jeune garçon. Les lames nocturnes sont un clan extrêmement bien implanté et dont le cœur se situe dans le chaos. Ils recrutent n'importe qui dans l'urgence, mais cela a un inconvénient. Les nouveaux venus sont tenus à l'écart des informations importantes. En tout cas, j'ai réussi à intégrer leur rang hier. Il releva sa manche, dévoilant en tatouage un croissant de lune fondue en son milieu. Technique d'infiltration, visiblement. Pourquoi, là aussi, vous faites le choix, parfois dans le roman de fantasy, on construit dans les premières pages l'action, dans d'autres cas, on fait le choix de construire pas à pas, ce qui fait parfois des romans plus lents, l'univers. Vous, c'est vraiment de quête en enquête, de rebondissement en action, c'est les interactions des personnages, c'est la découverte des pistes qui s'offrent, parfois des fausses pistes. En fait, vous l'avez vraiment construit comme un roman noir où cet univers, comme je le disais tout à l'heure, va être mis au jour par une enquête et des pistes qui vont partir un peu dans tous les sens.
Oui, c'est ça, c'était cette idée-là. On a en fait à chaque chapitre des extraits, des articles, des poèmes, enfin toute une sorte de d'autres textes dans le texte qui vient nourrir l'univers. C'est jamais gratuit. Chacune de ces petites introductions en fait crée un jeu d'écho avec le chapitre qu'on va suivre. Donc ça, c'est ma façon en fait de développer l'univers par petites touches. Et finalement, on découvre aussi l'univers à travers les personnages. Mais j'avais vraiment envie de jouer l'enquête aussi, même si on est dans un roman de fantasy. Ce que j'adore, moi, quand je termine un livre, c'est de me dire « il m'a bien eu ». Et de me dire « voilà, il y avait des indices, ça me paraissait être dérisoire, mais en fait, c'était la clé, c'était là ». Et c'est tout un jeu de construction, et étant d'une nature plutôt, on va dire, à me structurer, à faire des plans, à vraiment... vraiment aimer ce qui est structuré et ce qui va donner un jeu d'écho et ce qui va aussi faire qu'on a une certaine rigueur peut-être là-dedans. C'est ce qui me plaît en tout cas, même en fantasy. Je vois pas la fantasy comme une sorte de débauche d'imaginaire. J'aime ça aussi, mais ce que j'ai envie d'écrire, c'est quelque chose qui parfois rationalise un peu aussi cette fantasy. Et voilà. Et la veine noire, le côté policier, c'est aussi une façon d'y arriver.
Le titre Oraison au pluriel, alors justement, chapitre 2, Manerion, la cité des oraisons, royaume d'Eldérion, Manerion 912. Oraison, cérémonie consistant à envoyer les morts sur la planète attribuée à leur naissance par un procédé de réincarnation. Elle est considérée comme un art puissant et sacré, et seules les personnes appartenant à la corporation des marchands d'étoiles, résidant dans la cité de Manerion, peuvent accéder à ce savoir. La cérémonie se déroule en deux temps. D'abord, un discours d'éloge funèbre, puis un rituel lié à l'astracisme. L'astracisme, la religion maîtresse du royaume d'Eldérion, est incarnée par une autorité suprême, l'astrakhan. Ce dernier cumule les fonctions de dirigeant politique et religieux. Extrait de l'Encyclopédie de l'Histoire d'Olien par Asmadias, membre de la corporation Volplume de 613 à 647. Petit effet de réel, on a vu des poèmes, des extraits d'encyclopédie pour donner... procédé littéraire qu'on connaît bien, mais qu'elle utilise avec beaucoup de maîtrise, je trouve, justement pour donner des effets de réalité dans la construction d'un univers évidemment totalement imaginaire. Pourquoi vous avez choisi le titre Oraison, et sans nous révéler, parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ces fameuses oraisons, pourquoi vous avez imaginé cette religion avec ces sombres secrets qu'on ne révélera évidemment pas ici?
En fait, la genèse de ce roman, à l'époque, donc j'étais en terminale. J'avais 17 ans, j'étais en cours de philo, et en fait, le professeur a prononcé le mot oraison, donc il devait parler d'un texte de philo, et j'ai eu une espèce de choc poétique, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je me suis dit que c'était vraiment un mot magnifique, et que j'avais envie de créer une histoire autour de ça. Donc c'est vraiment parti de rien, et j'ai commencé à y réfléchir, et à me dire que finalement, dans Oraison, il y a deux choses. Il y a en effet ce discours d'éloge, c'est une sorte d'accompagnement, c'est un hommage, etc., mais qu'est-ce qui se passerait si on était dans une société où ce discours s'accompagnait d'un rituel magique qui consistait à prélever les âmes des morts? Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire cette société qui est une théocratie, qui tourne autour de cette religion qui consiste en fait à dire aux personnes que si elles effectuent correctement cette oraison, que si l'hommage final est fait, elles se réincarneront et connaîtront une autre vie. Et évidemment, cette quête de sens, cette espèce de passage obligé, cette croyance, va faire que l'oraison va devenir un enjeu financier énorme dans cet univers. Non seulement les âmes en fait prélevées sont revendues donc dans un commerce dont on va découvrir petit à petit les secrets, mais c'est aussi une vraie pression psychologique puisque les personnes sont persuadées que finalement elles ne trouveront une vie éternelle qu'avec ce rituel-là.
Rituel. Chapitre 6, le relief de la mort, royaume d'Eldérion, Manérion 912. Question 11, comment affronter la mort ? La disparition d'un être cher a pour nous deux facettes. C'est un événement social et relationnel qui bouleverse la vie de chacun, mais aussi un état de fait qui entraîne des réactions émotionnelles fortes. Cela fait partie du travail de l'oraisonnier, de comprendre le fonctionnement de la douleur psychologique de l'être humain. Son rôle est de confronter le client d'oraison à la réalité de la mort. En tant qu'oraisonnier, nous divisons le deuil en plusieurs phases afin de mieux comprendre les étapes qui mènent à l'acceptation. Toutefois, n'oublions pas qu'il y a autant de réactions face à la mort qu'il y a d'individus. Extrait de « Secret d'oraison » par Gilles Manérian, dirigeant de la Corporation des marchands d'étoiles depuis 882. Petit extrait du roman. La salle à manger des Manérians avait des airs de fête. Gide, en bout de table, dominait l'assistance. Sa femme, à sa droite, montrait un visage triste, car cette célébration impliquait également le départ de sa fille. Autour de Nouni, une foule de dignitaires, en majorité des collègues d'oraison, affichaient des expressions hautaines dans leur tenue de cérémonie. Soliane avait passé la journée à décorer le lieu pour les festivités, des guirlandes ornaient les murs et pour créer une atmosphère chaleureuse, un immense feu se consumait dans la vaste cheminée. Le chef de la corporation des marchands d'étoiles fit tinter la clochette posée devant son assiette afin de calmer le brouhaha des conversations. « Votre attention, s'il vous plaît !» Sa voix tonitruante plus que le tintement engendra un silence parfait. « Ma fille, Nouni, a obtenu son étoile de base il y a quelques jours. Aujourd'hui, elle a encore accompli une excellente oraison qui a grandement soulagé la peine de ses clients. C'est en son honneur, mesdames et messieurs, et afin de l'encourager dans le monde auquel elle vient d'accéder, que nous allons boire et manger ce soir. » Cette déclaration fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Les compliments fusaient de toutes parts, et Nouni avait du mal à faire s'estomper le rouge qui empourprait ses joues. On s'émerveillait de son jeune âge et de sa beauté, mais aussi de sa charmante personnalité. On la questionnait sur ses projets, les villes où elle souhaitait exercer, les préparatifs de son voyage, mais Nouni restait très vague. Elle n'avait pas encore décidé de son itinéraire, encore trop attachée à la cité de Manérian, qu'elle devrait pourtant quitter sous peu. « Et dites-moi, mademoiselle, nous parlons de votre future brillante carrière, mais vous devez également avoir une situation enviable dans un domaine, disons, plus privé. » La femme qui avait posé cette question était une oraisonnière d'un certain âge, et un sourire malicieux flottait sur ses lèvres. Nouni lui jeta un regard interrogateur. « Vous avez dû vous trouver un fiancé, n'est-ce pas ?» Quelques oreilles se tendirent, et certains convives se tournèrent en direction de Nouni. La jeune fille se racla la gorge et chercha à capter le regard de son père, mais celui-ci était absorbé par une discussion houleuse au sujet de la politique de l'astrakhan soleil. Elle répondit alors avec un calme fin « Ce n'est pas à l'ordre du jour, madame. C'est une préoccupation à prendre en compte, tôt ou tard, mademoiselle Manérian. Il se trouve que mon fils à votre âge est un oraisonnier débutant, mais cela ne m'intéresse pas. » L'interrompit Nouni avec une rudesse qu'il était rare d'entendre dans sa voix. La femme se rejeta dans son siège vexée. Elle échangea quelques commentaires venimeux avec ses voisins de table. Nouni dut lutter une bonne minute pour masquer à quel point était douloureux ce que cette question avait réveillé en elle. En dépit de cet incident, le repas se déroula dans une ambiance détendue et bon enfant. Les oraisonniers présents relatèrent leurs expériences de jeunesse, les cérémonies, leur propre pèlerinage. Nouni les écoutait, fasciné, en espérant vivre des aventures aussi palpitantes. Puis la conversation roula sur l'aspect commercial que la jeune Manérian ne pouvait concevoir. On parla notamment de la résuadine, dont la demande ne cessait d'augmenter. L'occasion pour elle de poser une question cruciale à laquelle on lui avait refusé la réponse jusqu'alors. « À présent que j'ai obtenu mon étoile de base, puis-je savoir à quoi sert exactement la résuadine ?» Il y eut une certaine gêne dans l'assistance. On va évidemment s'arrêter là. On ne va pas vous révéler. Cet univers est un univers où il y a de l'amour, où il y a de l'engagement, où il y a de la volonté de révéler la vérité. On sent une jeune femme à l'orée d'une carrière, à l'orée d'une vie, mais aussi quelqu'un qui a, quelques pages, montre une aspiration à la sincérité, et que visiblement elle va se rendre compte que cette aspiration à la sincérité va l'amener à se poser de plus en plus de questions et à découvrir que le monde et le milieu dans lequel elle vit n'est peut-être pas un milieu extrêmement sincère, extrêmement moral. Mais voilà, vous allez voir que vraiment, une fois que vous êtes entré, vous voudrez en savoir et il va falloir que vous alliez jusqu'à la fin pour que l'ensemble de l'oraison apparaisse, que l'ensemble de cette société se déchire. Avec le recul maintenant, roman quand même, vous avez commencé l'écriture à 18-19 ans, hein, très jeune.
17 ans, oui.
Voilà, vous l'avez ensuite retravaillé, vous l'avez publié, vous l'avez encore retravaillé. Je rappelle, prix Imaginal des lycéens, coup de cœur cette année, belle sortie en intégrale chez Bragelonne. Quel bilan vous tirez maintenant à 24 ans, au stade où vous en êtes, des contrats avec trois maisons d'édition, d'autres propositions, d'après ce que je me suis laissé dire. Écrivain professionnel, ça vous rend heureuse, Samantha Bailly ?
Oui, ça fait un an maintenant, en fait. Je travaille dans le jeu vidéo chez Ubisoft pendant 2 ans. Et ça a toujours été une vraie passion. Et je pense que quand on arrive à écrire des pavés comme ça jeune, en regardant en arrière, je me dis soit j'avais vraiment un problème, soit voilà, c'était un besoin, une nécessité. Et finalement, ça a toujours été une sorte d'objectif que je voulais pas non plus, comment dire, auquel j'avais du mal à croire. C'était quelque chose que je m'étais fixé, de me dire que je voyais assez souvent des personnes autour de moi qui me disaient qu'elles regrettaient de ne pas avoir fait ce qu'elles aimaient profondément dans la vie, pour me dire que bon, bah, peut-être que je n'ai pas besoin de vivre la même chose qu'eux et que je peux essayer de faire différemment. Et c'est comme ça que, quand j'ai fini mon contrat, voilà, il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai eu des propositions d'éditeurs. Ma petite maison d'édition a fermé ses portes, donc finalement, j'avais plus de boulot, j'avais plus de maison d'édition, enfin, j'avais plus rien. Et ces propositions sont venues, entre autres grâce aux Imaginales, donc, parce que l'année dernière, j'ai eu l'occasion, dans ce cadre-là, de pouvoir discuter avec des éditeurs, et voilà, qui finalement, on se connaît un peu tous, mais on ne se le dit pas forcément, qu'on s'intéresse à ce qu'on fait mutuellement. Et là, ça fait un an, et le bilan que j'en tire, c'est que oui, c'est une vraie sérénité, c'est un vrai bonheur, c'est, je pense, ma place, en tout cas. Après, les choses peuvent évoluer. Et ce que je veux conserver, c'est que on est face à une nouvelle problématique qui est celle, à partir du moment où on veut en vivre, on est dans une contrainte matérielle qui est qu'on n'a pas envie voilà, de, non plus d'être à la rue. Il faut qu'un minimum les choses fonctionnent. Mais j'ai vraiment envie de travailler uniquement sur des projets qui m'animent. Donc j'ai refusé certaines commandes et même en prenant un risque, parce que voilà, c'est parfois un peu osé à cet âge-là de dire bah non, en fait, ça, j'ai pas envie de le faire et j'ai envie de faire ce qui me plaît profondément. Et bah, c'est aussi une des libertés que m'offrent les éditeurs que j'ai actuellement, c'est qu'ils me suivent dans des projets personnels qui ne sont pas forcément les plus commerciaux, mais ils m'accompagnent et ça c'est vraiment, vraiment un grand plaisir.
Ben voilà, c'est une belle déclaration. Maintenant, on arrive à la fin de notre rencontre de ce café littéraire consacré au coup de cœur 2013 des Imaginales, Samantha Bailly. Alors, pour la découvrir, c'est assez facile. Si vous aimez les nouvelles, bien que je l'ai faite, cette anthologie, je vous encourage à la lire malgré tout, avec franchise et sincérité. Les coups de cœur des Imaginales, les 10 coups de cœur du festival, 10 nouvelles de ceux que le festival a mis en valeur. Et évidemment, le dernier texte publié, la dernière nouvelle inédite de Samantha Bailly, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure. Son roman, d'autant plus le défendre qu'arrivé à la moitié, je suis déjà impatiente de retourner chez moi pour lire la fin. Un roman qui au départ m'interrogeait et vraiment je trouve c'est un très 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 beau roman. Ce qui nous lie chez Milady. Et puis évidemment, si vous n'avez pas fait partie des premiers qui ont accompagné Samantha Bailly, Séance de rattrapage, Oraison, l'intégrale. Un magnifique roman de fantasy épique avec beaucoup, beaucoup de choses. Et derrière tous ces textes, un point en commun, déjà le professionnalisme, le sens du récit, des personnages, first characters first, comme disent les anglo-saxons, et aussi, je crois, un vrai bonheur de raconter. Le coup de cœur du festival, vous allez voir, vous allez vous précipiter sous la bulle du livre, elle va vous dédicacer les ouvrages, n'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez prendre les trois, mais vous allez vous rendre compte, et là j'y mets tout mon cœur, toute ma passion, tout mon enthousiasme. Franchement, je ne me suis pas trompé, le festival ne se trompe pas en faisant de Samantha Bailly le coup de cœur 2013 des Imaginales. Merci Samantha.
Merci beaucoup.